DCM, devoir de compréhension orale. Préparez-vous au devoir numéro 1. Vous avez une minute à votre disposition. Prenez connaissance du devoir. Première écoute.
Paradoxe des 28. C'est un titre que j'ai entendu tout récemment sur RFI. Les 28, bien sûr, ce sont les nations européennes. Et il se trouve qu'en Europe, les désaccords politiques augmentent. D'un côté, les populistes, les anti-européens. De l'autre, ceux qu'on appelle les europhiles, c'est-à-dire ceux qui sont favorables à une Europe politique, qui aiment l'Europe europhile, hein, et qui sont en général moins crispés sur les nationalismes. Alors, ces deux groupes défendent des positions de plus en plus opposées, irréconciliables. Mais d'un autre côté, d'un point de vue économique, on nous dit que les 28 États européens ont tendance à se rapprocher. Donc la situation est qualifiée de paradoxale. Paradoxale, ça veut dire qu'elle est tonne d'abord, hein. Elle est vraie, elle paraît fausse, ou en tout cas elle paraît contradictoire, difficile à croire. Nous voici face à deux vérités, deux réalités tout à fait opposées qui semblent au premier abord incompatibles. Donc elle suscite notre attention ou même notre intelligence. Comment faire pour comprendre ça? Eh bien c'est ça un paradoxe, hein. Voilà un mot relativement fréquent en français qui le plus souvent évoque quelque chose de surprenant à quoi on ne s'attendait pas. Ça paraît bizarre. Depuis qu'il est en vacances, il n'a jamais eu autant de travail. Voilà un paradoxe, parce qu'on pourrait imaginer le contraire, hein. Quand on est en vacances, on arrête de travailler, on se repose. Mais parfois, on est, comme on dit, rattrapé par une foule de choses qu'on aurait dû faire auparavant, mais qu'on a laissé de côté. Et comme le quotidien du travail ne vous assaille plus, il reste à éponger tous ces retards. On n'a jamais autant travaillé, et pourtant on est en vacances. C'est un paradoxe. Alors, il ne s'agit pas exactement du sens d'origine du mot. Au départ, un paradoxe, c'est une opinion qui ne correspond pas à ce qu'on pourrait imaginer. C'est quelque chose qui semble s'opposer au bon sens. Le mot semble dériver du grec, un paradoxe, même s'il arrive en français par l'intermédiaire du latin, qui lui-même l'avait déjà emprunté au grec. Cheminement assez fréquent pour des mots scientifiques, théoriques, qui ne sont pas d'un usage très courant. Et si l'on décompose le terme, ça nous aide à comprendre le premier sens, un paradoxe, paradoxa. Doxa en grec, ça veut dire l'opinion, et même l'opinion commune, largement partagée. Le mot même de doxa est parfois repris tel quel en français, bien qu'il ne fasse pas partie de la langue la plus ordinaire. La doxa, c'est l'opinion commune, et plus encore, c'est ce qu'il faut penser, ce qu'il est de bon ton de penser. Alors revenons à notre paradoxe. Para, c'est un préfixe qui a plus d'une signification, mais qui signifie entre autres choses à côté, et donc contraire. Paradoxa, c'est l'opinion contraire. Mais l'opinion contraire à quoi? Eh bien, à celle qui est le plus communément admise. C'est en fait une vérité qui ne tombe pas sous le sens. Et puis le mot est également employé en logique pour désigner une affirmation qui semble impossible, contradictoire dans les termes, hein. Si je dis « quand je parle, je mens toujours », comment on va comprendre cette phrase? Si je mens toujours, je viens de mentir en disant que je mentais, donc j'ai dit la vérité, donc je ne mens pas toujours, on ne s'en sort pas, eh bien voilà ce que c'est qu'un paradoxe logique.
Vous avez une minute avant la deuxième écoute. Complétez le devoir. Deuxième écoute.
Paradoxe des 28. C'est un titre que j'ai entendu tout récemment sur RFI. Les 28, bien sûr, ce sont les nations européennes. Et il se trouve qu'en Europe, les désaccords politiques augmentent. D'un côté, les populistes, les anti-européens. De l'autre, ceux qu'on appelle les europhiles, c'est-à-dire ceux qui sont favorables à une Europe politique, qui aiment l'Europe europhile, hein, et qui sont en général moins crispés sur les nationalismes. Alors, ces deux groupes défendent des positions de plus en plus opposées, irréconciliables. Mais d'un autre côté, d'un point de vue économique, on nous dit que les 28 États européens ont tendance à se rapprocher. Donc la situation est qualifiée de paradoxale. Paradoxale, ça veut dire qu'elle est tonne d'abord, hein. Elle est vraie, elle paraît fausse, ou en tout cas elle paraît contradictoire, difficile à croire. Nous voici face à deux vérités, deux réalités tout à fait opposées qui semblent au premier abord incompatibles. Donc elle suscite notre attention ou même notre intelligence. Comment faire pour comprendre ça? Eh bien c'est ça un paradoxe, hein. Voilà un mot relativement fréquent en français qui le plus souvent évoque quelque chose de surprenant à quoi on ne s'attendait pas. Ça paraît bizarre. Depuis qu'il est en vacances, il n'a jamais eu autant de travail. Voilà un paradoxe, parce qu'on pourrait imaginer le contraire, hein. Quand on est en vacances, on arrête de travailler, on se repose. Mais parfois, on est, comme on dit, rattrapé par une foule de choses qu'on aurait dû faire auparavant, mais qu'on a laissé de côté. Et comme le quotidien du travail ne vous assaille plus, il reste à éponger tous ces retards. On n'a jamais autant travaillé, et pourtant on est en vacances. C'est un paradoxe. Alors, il ne s'agit pas exactement du sens d'origine du mot. Au départ, un paradoxe, c'est une opinion qui ne correspond pas à ce qu'on pourrait imaginer. C'est quelque chose qui semble s'opposer au bon sens. Le mot semble dériver du grec, un paradoxe, même s'il arrive en français par l'intermédiaire du latin, qui lui-même l'avait déjà emprunté au grec. Cheminement assez fréquent pour des mots scientifiques, théoriques, qui ne sont pas d'un usage très courant. Et si l'on décompose le terme, ça nous aide à comprendre le premier sens, un paradoxe, paradoxa. Doxa en grec, ça veut dire l'opinion, et même l'opinion commune, largement partagée. Le mot même de doxa est parfois repris tel quel en français, bien qu'il ne fasse pas partie de la langue la plus ordinaire. La doxa, c'est l'opinion commune, et plus encore, c'est ce qu'il faut penser, ce qu'il est de bon ton de penser. Alors revenons à notre paradoxe. Para, c'est un préfixe qui a plus d'une signification, mais qui signifie entre autres choses à côté, et donc contraire. Paradoxa, c'est l'opinion contraire. Mais l'opinion contraire à quoi? Eh bien, à celle qui est le plus communément admise. C'est en fait une vérité qui ne tombe pas sous le sens. Et puis le mot est également employé en logique pour désigner une affirmation qui semble impossible, contradictoire dans les termes, hein. Si je dis « quand je parle, je mens toujours », comment on va comprendre cette phrase? Si je mens toujours, je viens de mentir en disant que je mentais, donc j'ai dit la vérité, donc je ne mens pas toujours, on ne s'en sort pas, eh bien voilà ce que c'est qu'un paradoxe logique.
Vous avez une minute à votre disposition. Finissez le devoir. Préparez-vous au devoir numéro 2. Vous avez une minute à votre disposition. Prenez connaissance du devoir. Première écoute.
C'est le week-end dernier que s'est déroulée aux États-Unis la finale de l'un des sports les plus populaires là-bas. Et cette finale, on l'appelle le Super Bowl de football américain, si présente dans l'actualité américaine que bien sûr il a des retombées politiques et que les personnages publics tentent de s'emparer de sa popularité pour améliorer la leur. Mais ce n'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi on parle de football américain. Eh bien, c'est que là-bas, en Amérique du Nord et aux États-Unis, il existe deux sports dont l'un est très répandu et l'autre encore assez confidentiel. Alors, le premier, celui qui est le plus populaire, on l'appelle, aux États-Unis, le football. Et il ne ressemble pas au jeu qu'on appelle de la même façon en Europe. C'est un sport assez rude, avec un ballon ovale qui se joue largement avec la main. Ce n'est pas non plus du rugby, malgré ses quelques ressemblances. Et c'est cette discipline qui vient de fêter donc l'aboutissement de sa saison. Et puis, à côté de ce sport âpre et vif, qui s'appelle football aux États-Unis et qu'on appelle football américain en France, pour ne pas se tromper, à côté de ce sport qui se joue casqué, eh bien, on joue aussi à notre football. Le jeu bien connu à 11 joueurs. Alors, comment l'appelle-t-on pour ne pas se tromper? Eh bien, il a un nom particulier. On l'appelle soccer. Pourquoi soccer? Drôle de mot. Mais il y a longtemps, pour ne pas se tromper justement, on précisait. Il y avait ceux qui jouaient au football et ceux qui jouaient au football association, football association. L'expression s'est modifiée et on a parlé d'assos et puis de sos et puis de soc et de soccer pour ceux qui pratiquaient justement ce sport. Alors, le soccer, il n'est pas encore très important en Amérique, mais il gagne du terrain, ce qui fait que le mot s'entend même parfois en France comme un anglicisme d'un nouveau genre et que la défense de la langue française s'accroche donc à ce mot de football contre l'entrée en catimini du soccer américain. Notre football, est-ce qu'il a des dérivés en français? Bon, bien sûr qu'il a une abréviation. D'abord le foot, hein, usage ancien, tout le monde le comprend. Ça témoigne d'un peu de familiarité, mais c'est tellement courant, tellement usuel. Et comme c'est facile à prononcer, on oublie l'accent anglo-américain du mot. Et il fait partie, sans état d'âme, du vocabulaire bien français. À l'inverse, parler de football atteste un langage un peu plus formel, même si les problèmes de prononciation, là aussi, sont évités, hein, parce qu'il y a une phonétique à la française qui s'est approprié le mot. Et puis, il faut pas exagérer, hein, football s'entend quand même beaucoup plus que cinématographe qui a été éclipsé par cinéma ou stylographe qui a été poignardé par stylo, hein. Quant aux dérivés, bah évidemment, on a footballeur, mais on a aussi footeux, par exemple. Un mot, lui, réellement familier et assez vague, puisqu'il peut s'agir des joueurs, mais aussi des spectateurs, des passionnés, des adeptes, avec cette suffixation qui peut paraître un petit peu vexante, mais en fait, qu'il ne l'est pas vraiment, parce que on la trouve dans quelques autres disciplines, journaleux, jazzeux, folkeux, etc.
Vous avez une minute avant la deuxième écoute. Complétez le devoir. Deuxième écoute.
C'est le week-end dernier que s'est déroulée aux États-Unis la finale de l'un des sports les plus populaires là-bas. Et cette finale, on l'appelle le Super Bowl de football américain si présente dans l'actualité américaine que bien sûr il a des retombées politiques et que les personnages publics tentent de s'emparer de sa popularité pour améliorer la leur. Mais ce n'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi on parle de football américain. Eh bien, c'est que là-bas, en Amérique du Nord et aux États-Unis, il existe deux sports dont l'un est très répandu et l'autre encore assez confidentiel. Alors, le premier, celui qui est le plus populaire, eh bien, on l'appelle, aux États-Unis, le football. Et il ne ressemble pas au jeu qu'on appelle de la même façon en Europe. C'est un sport assez rude, avec un ballon ovale qui se joue largement avec la main. Ce n'est pas non plus du rugby, malgré ses quelques ressemblances, et c'est cette discipline qui vient de fêter donc l'aboutissement de sa saison. Et puis, à côté de ce sport âpre et vif, qui s'appelle football aux États-Unis et qu'on appelle football américain en France, pour ne pas se tromper, à côté de ce sport qui se joue casqué, eh bien on joue aussi à notre football, le jeu bien connu à 11 joueurs. Alors, comment l'appelle-t-on pour ne pas se tromper? Eh bien, il a un nom particulier. On l'appelle « soccer ». Pourquoi « soccer » drôle de mot? Mais il y a longtemps, pour ne pas se tromper justement, on précisait. Il y avait ceux qui jouaient au football et ceux qui jouaient au football association, « football association ». L'expression s'est modifiée et on a parlé d'assos et puis de sos et puis de soc et de soccer pour ceux qui pratiquaient justement ce sport. Alors, le soccer, il n'est pas encore très important en Amérique, mais il gagne du terrain, ce qui fait que le mot s'entend même parfois en France comme un anglicisme d'un nouveau genre et que la défense de la langue française s'accroche donc à ce mot de football contre l'entrée en catimini du soccer américain. Notre football, est-ce qu'il a des dérivés en français? Bon, bien sûr qu'il a une abréviation. D'abord le foot, hein, usage ancien, tout le monde le comprend. Ça témoigne d'un peu de familiarité, mais c'est tellement courant, tellement usuel. Et comme c'est facile à prononcer, on oublie l'accent anglo-américain du mot. Et il fait partie, sans état d'âme, du vocabulaire bien français. À l'inverse, parler de football atteste un langage un peu plus formel, même si les problèmes de prononciation, là aussi, sont évités, hein, parce qu'il y a une phonétique à la française qui s'est approprié le mot. Et puis, il faut pas exagérer, hein, football s'entend quand même beaucoup plus que cinématographe qui a été éclipsé par cinéma ou stylographe qui a été poignardé par stylo, hein. Quant aux dérivés, bah évidemment, on a footballeur, mais on a aussi footeux, par exemple. Un mot, lui, réellement familier et assez vague, puisqu'il peut s'agir des joueurs, mais aussi des spectateurs, des passionnés, des adeptes, avec cette suffixation qui peut paraître un petit peu vexante, mais en fait, qu'il ne l'est pas vraiment, parce que on la trouve dans quelques autres disciplines, journaleux, jazzeux, folkeux, etc.
Vous avez une minute à votre disposition. Finissez le devoir.
Fin de l'épreuve de compréhension orale. Rendez vos devoirs au professeur.